France Culture.
À voix nue, Sylvie Tanette.
Lionel Trouillot, citoyen haïtien qui écrit et fait beaucoup d'autres choses.
Premier épisode, naître et vivre à Haïti. Bonjour Lionel Trouillot.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette série d'À voix nue intitulée « Être écrivain à Haïti ». Lionel Trouillot, vous êtes un écrivain de langue française, mais pas seulement. Vous avez aussi écrit en créole haïtien, puisque vous êtes né en 1956 à Haïti, où vous vivez toujours. On pourrait aussi dire que vous êtes un écrivain multiforme, romancier, poète, universitaire et un acteur important de la vie culturelle en Haïti. Alors, après un premier recueil de poésie en 1979, vous avez depuis publié plus d'une vingtaine de livres, principalement chez Actes Sud. J'aimerais pour commencer que vous nous parliez de vous, de Port-au-Prince, votre ville. Vous êtes né dans le quartier de Saint-Antoine. C'était comment quand vous étiez petit?
Oui, je suis né dans le quartier de Saint-Antoine. À l'époque, c'était un quartier, je dirais, habité par des gens de classe moyenne relativement aisée, pas riche, mais pas pauvre. Non plus, c'était un quartier de profession libérale, avocat, ingénieur, officier de l'armée. C'était des gens de la moyenne, ce qu'on appelle en Haïti la belle moyenne. C'est-à-dire des gens qui, comme je le disais, sont pas riches, mais sont relativement aisés. Donc la reproduction est assurée. Les enfants vont à l'école, la vie, elle est possible, elle est pas soumise au risque, à la précarité, donc dans une relative tranquillité sociale. Je dirais cela ainsi, sauf que derrière la rue principale, donc de ce quartier de Saint-Antoine, il y avait des bidonvilles qui étaient en train de se constituer. Et nous, on ne les voyait pas forcément, on n'avait pas forcément conscience de toute cette vie faite de difficultés, de débrouillardises, qui était en train de s'installer dans le quartier. On allait en classe chez les curés, comme c'était la norme à l'époque. Moi chez les curés, mes sœurs chez les sœurs. C'était ainsi. On vivait dans ce petit monde relativement protégé. Sans voir, j'insiste là-dessus, sans voir cette sale vie qui était en train de s'installer derrière. Et c'est pour ça que dans mon premier livre, d'ailleurs, j'en parle, le Saint-Antoine à la façade, et tout ce monde caché derrière.
Ouais, on arrivera à votre premier livre. Mais vos parents faisaient quoi, Lionel Trouillot?
Mon père était enseignant, il était prof au secondaire, à l'université, et il était avocat. Et plus tard, il deviendra d'ailleurs bâtonnier de l'ordre des avocats. À l'époque, c'était très prestigieux comme fonction, il était bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. C'est vraiment un juriste extrêmement connu, il était par ailleurs historien, et ma mère était infirmière. Dans la famille, c'est ma mère qui fréquentait les pauvres, parce que dans les dispensaires, comme on disait à l'époque où elle travaillait, c'était des institutions publiques, et qui étaient fréquentées par les pauvres. Et quand elle revenait à la maison, et qu'elle nous racontait un peu ce qu'elle avait vu, là, on sentait qu'il y avait pas que nous dans la vie, pas que nous dans la société. En fait, c'était tous les deux des lettrés, des gens instruits. Et nous, on a grandi avec ce capital culturel. Je me rappelle, quand j'ai eu 10 ans, mon père m'a dit « t'as un nom, maintenant trouve-toi un prénom ». Et c'est un peu la tradition. Les Trouillot, c'est peut-être le premier, le deuxième ou pas plus bas que le quatrième patronyme à avoir signé le plus de livres dans l'histoire d'Haïti. Donc, les Trouillot, le père en fils, ça, si vous voulez, ça écrit. Il y a une sorte de reproduction par le chemin de l'intellectualité. Il y a une reproduction sociale quasiment assurée. Donc, je suis né là-dedans et j'ai un peu glissé dans la tradition.
Oui, vous êtes issu d'une famille de lettrés, comme vous venez de nous le dire, Lionel Trouillot, mais vous êtes le premier romancier, vous êtes le premier à avoir écrit de la fiction, je crois. Les autres étaient essayistes ou...
Essayistes, ouais, j'ai un oncle qui a écrit des pièces de théâtre, mon frère a composé un grand nombre de chansons. Mm-hmm. Il était, à côté de son travail d'universitaire, il était anthropologue, il a été aussi un un auteur, compositeur, interprète. Je crois qu'Evelyne, ma sœur et moi, nous sommes les premiers à s'être vraiment plongés dans le domaine de la fiction.
Et qu'est-ce qui se passe à Haïti à ce moment-là? Vous nous dites les bidonvilles sont en train d'être construits. C'est dans les années 60, j'imagine, puisque vous êtes né en 56. C'est une île qui se transforme.
Alors, ma seule petite coquetterie, je ne suis pas né en 56, je suis né le 31 décembre 56. Pour moi, ça fait une énorme différence. Mais là, je plaisante, c'est un peu comme je dis, ma petite coquetterie. À l'époque, c'est la dictature des Duvaliers.
Oui.
C'est la dictature des Duvaliers. J'ai eu une enfance, il y a la bibliothèque familiale, qui était imposante. Et là, je remercie mes parents. On n'a jamais eu de restrictions quant aux livres qu'on pouvait lire ou consulter. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement libérateur et formateur. Je me rappelle avoir lu Jésus Lacaille à 11 ans, j'y comprenais absolument rien. Mais c'était quand même un bonheur, parce qu'il y a quelque chose qui reste. Et donc, on avait accès à cette bibliothèque. Ça, c'était, si vous voulez, le bon côté de la vie. On n'avait pas beaucoup de sorties, parce que c'est l'époque de la dictature. Il nous arrivait d'aller au cinéma, parfois au théâtre. Ces choses-là existaient en Haïti à l'époque, mais c'était sous contrôle. Et puis le soir, c'était le règne du murmure, parce qu'il y avait souvent le couvre-feu. Moi, mon enfance, Evelyne aussi en parle souvent, notre enfance, puisque Evelyne et moi, on est les plus proches. Mon autre sœur et mon frère étaient plus âgés.
Vous étiez quatre enfants ?
Nous, on était quatre. Et donc, c'était le murmure. C'était les parents qui murmuraient, c'était le couvre-feu, pas le droit d'allumer les lampes, c'était la radio qu'on n'avait pas le droit d'écouter ou qu'on écoutait clandestinement. Je me rappelle, parfois, les parents écoutaient Radio Havane, mais c'était vraiment dans la plus grande clandestinité. Et puis, quand on voyait pas quelqu'un, on n'avait pas le droit de te demander où il était passé. Je me rappelle, ma mère m'a foutu une baffe parce qu'il y avait un membre de la famille qui fréquentait la maison. Après, on l'a plus vu. Et moi, enfant, je dis, mais où il est passé, le cousin Roger, et ma mère me fout une baffe. C'était pour me protéger d'une certaine manière. Le cousin Roger en question, il avait gagné le maquis, puis il exige. On demandait pas, comme on dit, des nouvelles des autres. Les gens, on les voyait, et puis soudain, on les voyait plus. Et puis c'était comme ça. C'était comme ça, et puis on n'avait pas le droit de parler de tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment une enfance marquée par... j'ai parlé du couvre-feu, il y avait aussi parfois le bruit des bottes. Parce que parfois, quand il y avait le couvre-feu, l'armée ou les tontons Macoutes, ça investissait les rues. Et on entendait le bruit dans les rues. C'était quelque chose d'assez impressionnant. Où on a vu aussi des exactions, on peut dire des crimes... Il y a eu quand même des profs qui ont été arrêtés en pleine chair. Des exactions dont des enfants ont été victimes, dont des familles entières ont été victimes. Donc on a été témoin de tout cela. Donc c'est une chose qui fait partie de ma mémoire, forcément.
Vous vous souvenez de l'angoisse ? Vous vous souvenez de ça, des sensations ?
Ah oui.
De peur, j'imagine, ouais.
Ah oui. De peur, d'anxiété, d'inquiétude. C'était vraiment quelque chose qui était de l'ordre de la terreur, simplement. On savait que n'importe quoi pouvait arriver à n'importe qui. Et donc, on était toujours dans la précaution. Tout enfant qu'on était, on se livrait pas à une simple conversation avec un enfant qu'on connaissait pas bien. Parce que là, on était éduqués par nos parents à craindre, à être dans le silence. Encore une fois, c'était une façon de nous protéger. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre ?
Et alors, la bibliothèque familiale, j'imagine, dans une ambiance comme ça, c'est une façon de s'évader dans les livres. Qu'est-ce que vous lisez enfant ? Cité un titre, mais peut-être vous pouvez un peu plus
expliquer. C'était une façon de s'évader, mais c'était aussi une façon d'être présent dans la réalité. Oui, parce que moi, j'y ai raconté plusieurs fois, mais parce que c'est vrai. Je me rappelle, je vais avoir le même âge, quelques 11, 12 ans, quand j'ai lu peut-être 13 ans au maximum, quand j'ai lu Les raisins de la colère de John Steinbeck. Et quand j'ai lu ce livre, justement toute cette misère qu'il y avait à côté de moi dans mon Saint-Antoine que j'avais pas appris à regarder, en lisant Les raisins de la colère, mon regard s'est porté vers cette misère qui était à côté de moi. Je pense que la littérature a cette capacité de nous amener à voir parce que justement nous avions soit choisi de ne pas voir, soit oublié de regarder. Donc je pense que là je pourrais parler pour Evelyne aussi, je crois que c'est un peu le même processus chez elle. La littérature nous permettait de nous évader quelque part, mais elle nous permettait aussi de trouver des points d'ancrage pour comprendre la réalité autour de nous et pour enrichir notre ressenti. Parce qu'on peut avoir aussi des ressentis extrêmement pauvres, extrêmement limités. On peut avoir des régimes de sensibilité très maigres. Je dirais, je pense que nos lectures, là j'ai parlé de Les raisins de la colère, mais je pourrais citer aussi de grands livres haïtiens, comme Gouverneur de la Rosée, bien sûr, que de Jacques Roumain, comme Compère Général Soleil, de Jacques-Stéphane Alexis, ou un livre, le premier puissant roman de Franck Étienne, qui sort en 69, donc j'avais quel âge? Je suis né, comme on disait, en 56, quand Franck Étienne sort en 68 ou 69, son livre pas ultra-vocal, Le premier mur à crever, c'était d'une force, d'une violence. Donc ça nous permettait de savoir qu'on pouvait parler autrement, qu'on pouvait sentir autrement et qu'on pouvait se révolter aussi contre ce qui se passait. Ce qui se passait, on n'avait pas les moyens, je dirais, intellectuels à cet âge de bien comprendre, mais on pouvait sentir que c'était pas juste. Cette bibliothèque, je lui dois beaucoup. C'est un peu par la lecture des textes disponibles dans cette bibliothèque que je suis né un peu à la conscience humaine et à la révolte.
Et vos parents et les adultes qui vous entouraient à l'époque, vous les définiriez comment? C'était des gens qui étaient politisés ou qui avaient une conscience politique?
Là, je ne peux pas vous dire, parce que tout était de l'ordre de la clandestinité. Et donc, je ne les ai pas connus... étant des activistes politiques, mais je vois mal comment quelqu'un aurait pu rester insensible à ce qui se passait. Je pense que tout le monde avait des formes discrètes de résistance. Le grand romancier haïtien qui était parti ensuite au Canada, Émile Olivier, je me rappelle justement de ce grand jeune homme, qui était très grand de taille, qui était resté peut-être une semaine ou deux dans une chambre de notre maison, mais moi, je savais que c'était le cousin Milo. Mais c'est tout ce que je savais, parce que on n'avait pas le droit de poser de questions. Puis c'est après que j'ai appris que, justement, après l'assassinat de Jacques-Stéphane Alexis par les hommes de Duvalier, Émile Olivier, qui était le bras droit de Jacques-Stéphane Alexis, il avait dû se cacher, il avait passé une quinzaine de jours à la maison, comme sans doute chez d'autres. Donc les gens avaient trouvé des formes de, je ne sais pas s'il faut appeler ça de la résistance, mais ils avaient quand même trouvé des formes de solidarité avec les gens qui étaient menacés par la dictature. Même posséder certains livres, c'était quelque chose où je me rappelle parfois quand il y avait les défilés organisés par l'État, ma mère ne voulait pas que j'y aille. Alors que vous êtes en situation de dictature, quasiment de régime totalitaire, puisque l'instance politique dominait toutes les autres instances. Quand vous avez une mère qui dit que non, mon fils n'ira pas à la parade nationale organisée par le pouvoir, c'est déjà quelque chose. Faudrait peut-être qu'il y ait de vraies études sur comment les gens simples, je dirais, de la population, non, pas les gens engagés dans des pratiques politiques, comment eux, ils ont résisté à leur façon à cette folie totalitaire qu'a été le duvalierisme.
Et dans cette époque-là, quand vous êtes enfant, le créole, qui est une langue dans laquelle vous allez écrire plus tard, ça occupe quelle place? Il me semble qu'à l'époque, c'est pas une langue qui est vraiment bien vue, ou que c'est une langue uniquement familiale, où on lit des choses en créole à cette époque-là?
À cette époque-là, il y a très peu de choses en créole à lire. Il y a quelques textes, quelques poèmes écrits par les poètes du 19e siècle, et tout à la fin du 19e siècle, le seul véritable écrivain de langue créole, on avait la chance d'avoir ses livres à la maison, c'était Félix Maurice Auleroy qui avait publié en 1953 un recueil qui est un recueil fondateur dans l'histoire de la littérature haïtienne de langue créole, Diakout. Nous, on avait accès à Diakout, donc on connaissait ses poèmes, Merci Papa Dessalines, mais il y avait peu de choses à lire en créole, et la norme, c'était que le créole n'était pas une langue, c'est ce qu'on disait. c'était le discours plus ou moins officiel, c'était le discours dans les familles, même si je dois le dire, dans ma famille, on ne nous a jamais dit de ne pas parler créole. Alors que dans ce milieu-là, c'était un peu la norme. À l'époque, on disait aux enfants de ne pas parler créole. Mais comment dire à un enfant de ne pas parler sa langue, puisque le créole, c'est notre langue. On a grandi dans le créole, mais comme dit mon ami Sito Cavé, le créole, c'était un peu notre langue du soir. La langue de la mère, c'était la langue du comte, c'était la langue du personnel domestique, c'était la langue de nos jeux d'enfants. Et la langue officielle, la langue quand il y avait des gens qui venaient à la maison, la langue de l'école chez les curés, c'était le français. Donc, au moment où moi je grandis, c'est ça la situation. D'ailleurs, les gens de ma génération, quand on s'est mis à écrire en créole, ça a tout de suite été considéré et par nous, et par nos parents, et par l'establishment littéraire de l'époque comme un geste politique. Choisir d'écrire dans cette langue, c'était quasiment une forme de militantisme, voire d'opposition à cette mise en commun de tout ce qui était mauvais par le pouvoir politique et le pouvoir culturel ou dominant, si on peut dire ça comme ça. Mais à l'époque, oui. Alors il y avait cette expression détestable, tu te mettais à parler créole à l'école ou dans un salon, petit bourgeois ou bourgeois, et il y avait quelqu'un qui te disait « exprime-toi ». Moi, je n'ai jamais oublié l'expression, c'était l'expression la plus courante à l'époque, « exprime-toi », comme si quand tu parlais créole, tu t'exprimais pas. Donc c'était cela, oui. Mais là encore, c'était tellement idiot, parce que notre vraie langue, c'était le créole. La langue de nos larmes, c'était le créole. La langue de nos colères, c'était le créole. Alors, le côté débile, c'était que, quand on voulait être écrivain, évidemment, la seule mémoire littéraire qu'on avait, c'était une mémoire en français. Donc, on était un peu dans le pastiche ou la parodie. Et quand on tombait amoureux pour la première fois, on écrivait des poèmes en français à des jeunes filles qui ne les lisaient pas forcément, mais c'était ça la pratique dominante. Donc, au fait, ouais. Si vous voulez, la langue de l'officiel, la langue du père, j'aime bien quand Sito Cavé utilise cette expression, la langue du père, au sens de la langue du pouvoir, la langue, la domination sociale, c'était le français, et puis la langue de la tendresse, la langue de l'intimité réelle, c'était le créole.
C'est le créole. Et vous allez quitter cette ambiance, Lionel Trouillot, quand vous êtes adolescent, parce que vous partez aux États-Unis, il me semble, faire le lycée aux États-Unis.
Oui, je me retrouve aux États-Unis. Bon, mes parents avaient divorcé, et je ne sais pas quelle était à l'époque la situation économique de ma mère, puisque on s'est retrouvé, ma sœur Evelyne et moi, à vivre avec ma mère. Et je ne veux pas dire si elle a décidé de laisser Haïti, parce qu'économiquement, ça devenait trop dur pour elle, ou si elle a décidé de laisser Haïti parce que la question du divorce, mon père était un homme relativement connu, elle l'avait mal vécu. Donc je me retrouve à New York. Mais je n'ai pas quitté Haïti. Ma mère, c'est pas un reproche que je lui adresse dans sa tombe. Ma mère m'a entraîné hors d'Haïti. Je me retrouve quasiment malgré moi aux États-Unis. D'ailleurs, je dois dire que, à ma majorité, j'ai choisi de rentrer en Haïti à une époque, on est en 1976, à une époque où beaucoup de jeunes sont en train de laisser le pays. Donc, j'ai fait un peu le parcours inverse.
Mais avec le recul, ça vous a apporté quoi, ces années américaines qui correspondent aux années de lycée?
Nothing at all. À part le fait d'avoir lu certains grands textes de la littérature américaine et de la littérature anglaise dans la langue originale. Souvent, je dis que c'est un peu un temps gaspillé, une sorte de temps figé, mon temps aux États-Unis. Moi, je voulais être haïtien, voilà. Je dis ça comme ça, et Brooklyn, c'était pas forcément pour moi le meilleur lieu pour être haïtien. J'étais déjà impliqué. Ça, je pense être le seul dans ma famille à avoir fait ce chemin-là dans des activités sportives. Les Trouillot, c'est des intellos par définition. Mon père nous a raconté qu'il jouait au foot pour une équipe du championnat national, mais n'est jamais arrivé très loin, hein, cette équipe-là. Donc, moi, j'avais une pratique sportive, j'avais déjà créé avec des amis, quand j'avais 12, 13 ans, un petit journal scolaire. Et donc, je me retrouve aux États-Unis et je peux dire que là, j'ai pas... D'autant que, j'avoue qu'au lycée, aux États-Unis, je pense pas avoir appris grand-chose. Alors là où ça m'a, comme j'ai dit, ces textes auxquels j'ai pu avoir accès en langue originale. Et puis, ça a été aussi une grande période de conscientisation politique. Je pense que j'étais pas du tout la seule adolescente typique danseur de compagnie grecque, quand, comme c'était la mode à l'époque. J'étais un garçon toujours à lire hein, et impliqué très tôt dans des mouvements politiques à New York. Il y avait à l'époque hein, ce qu'on appelait l'action patriotique dans la diaspora. Donc, il y avait beaucoup de jeunes qui se retrouvaient en Amérique du Nord, quelques-uns en France, mais le gros en Amérique du Nord, et qui avait à peu près le même âge que le président de la République. Moi, j'étais plus jeune président à vie, avec 60 000 makoutes à son service, une armée de presque 10 000 hommes. Et ces jeunes se disaient, mais il faut quand même trouver un moyen de se débarrasser de ce type, autrement on va passer toute notre vie en dehors d'Haïti, et on ne pourra jamais intervenir dans la vie sociale, la vie politique de notre... Donc ce mouvement était très fort, très important, évidemment avec les erreurs de jeunesse qu'un mouvement pareil peut porter, mais aussi avec une volonté d'apprendre, une volonté de comprendre la réalité, de se donner des outils intellectuels pour comprendre la réalité. Donc à l'époque, on se retrouve... eux, ils étaient quand même un peu plus âgés que moi, mon frère Rolf... ma sœur Jocelyne, on se retrouve, Emeline et moi, en étant plus jeunes, à lire en tout ce qu'on pouvait trouver à l'époque de théorie marxiste, à la fois sur la société et sur la littérature. Ça, c'est important aussi. Je pense que, je le dis souvent, ça a été pour moi une grande université, la fréquentation de ces mouvements politiques à New York. D'ailleurs, quand je suis revenu en Haïti, j'ai fait des études de droit, j'ai fait le cycle... entier, mais j'ai jamais voulu être avocat, professeur, comme le faisait mon père. C'était ma montre. Et après, je me suis retrouvé prof de littérature à l'école normale, mais j'ai jamais étudié la littérature à l'université. Je pense que pour mon travail de prof, c'est d'abord cette culture-là de ces années new-yorkaises qui m'a servi. C'était pas une période heureuse.
C'était pas une période heureuse.
Non, pas du tout. C'était pas une période heureuse au sens où c'est pas qu'est-ce que j'avais comme joie à part le justement, les discussions avec les copains et les mauvais poèmes que j'écrivais à l'époque, mais je veux dire, le parcours normal de l'adolescent, cette bêtise joyeuse qui fait l'adolescence, je pense ne l'avoir jamais connue.
Vous parlez de vos mauvais poèmes, Lionel Trouillon, mais c'est pourtant dans ces années-là que vous commencez à écrire et ensuite vous allez publier de la poésie.
Ah, je pense que je commençais à écrire beaucoup plus tôt. Ma mère a ce plaisir à raconter que j'ai toujours été menteur, que j'ai commencé à mentir à l'âge de 6 ans. Parce que comme mon père s'occupait un peu de littérature, ma mère n'aimait pas trop la littérature. Pour elle, c'était le droit, la littérature, le journalisme. Donc les trois professions de mon père, pour elle, c'était, elle appelait ça l'école du mensonge. Et elle disait, avec un peu d'humour aussi, que moi j'étais très tôt entré dans l'école du mensonge. Elle racontait que je racontais des histoires, que j'inventais des histoires depuis l'âge de 6 ans. J'ai aucun souvenir de ces histoires. En revanche, c'est vrai que des cahiers de poèmes, depuis l'âge de 7-8 ans, oui, chez Mémoire, j'ai gagné même quelques concours à l'échelle nationale. Je me rappelle, il y avait un concours de la Croix-Rouge. J'ai gagné des concours de poèmes à Marie. J'étais chez les curés, donc la femme la plus aimée, officiellement chez les curés, c'est forcément Marie. Donc, j'étais dans l'écriture, j'avais jamais envisagé l'écriture, cela dit, comme un métier. Et quand je me retrouve à New York, dans cette, je dirais, solitude, à part des amis politiques plus âgés que moi, oui, j'ai beaucoup écrit. Et je pense que la poésie, c'est toujours quelque chose qu'il faut publier un peu à reculons, en se disant, aïe, attention, est-ce que là, vraiment, ça mérite d'être communiqué à quelqu'un d'autre. Donc j'ai dû griffonner des tas d'horreurs que j'appelais des poèmes à l'époque. En plus, on écrivait aussi un peu dans la clandestinité, parce que on espérait quand même revenir un jour en Haïti. Il y avait des poèmes qu'on écrivait qui interpellaient directement le politique ou le gouvernement. Donc ces poèmes-là, on ne les signait pas. Donc on s'est retrouvés, mon frère, ma sœur et moi, même à écrire des chansons pour l'Église catholique, alors que nous étions résolument athées dans notre façon de penser et nos choix de vie. Donc j'ai vraiment griffonné, je peux dire que j'étais carrément graphomane un peu à l'époque. Donc j'ai peu gardé de tout ce que j'ai pu écrire. Alors j'utilise le mot pour dire simplement les choses griffonnées. Hein. Je dis pas que c'était de l'écriture véritablement. Vous savez, dans la littérature aussi, on grandit avec ses erreurs.
Eh bien, vous allez nous parler de votre poésie, que vous publiez votre premier recueil de poèmes en 79 et le premier roman à la fin des années 80. On explorera votre écriture et votre art romanesque dans notre prochain épisode. Merci, Lionel Trouillot, pour cette rencontre.
Merci à vous.
C'était À voix nue avec Lionel Trouillot, réalisation Manouchak Fachaï, prise de son Stéphane Foulon, chargé de programme Daphné Abgral, une série de Sylvie Tanette disponible sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.